Chapitre 3. Sur le chemin du travail, Rick Descartes, comme Dieu savait combien d'autres gens, s'arrêta brièvement devant la vitrine de l'une des plus grandes boutiques animalières de San Francisco. Au centre de la vitrine d'exposition sans fin, dans une cage de plastique transparent chauffée, une autruche lui retournait son regard. L'oiseau, s'il fallait en croire la pancarte attachée à sa cage, venait d'arriver d'un zoo de Cleveland. C'était le seul spécimen de toute la côte ouest. Après l'avoir longuement fixé, Rick passa encore quelques minutes à froncer les sourcils devant son prix. Puis, constatant qu'il avait déjà un quart d'heure de retard, il poursuivit sa route en direction du palais de justice de Lombard Street. Au moment même où il ouvrait la porte de son bureau, son supérieur, le commissaire Harry Bryant, un rouquin aux oreilles décollées, mal habillé mais avec des yeux perçants qui ne laissaient pratiquement rien échapper, se planta devant lui.
« Réunion à 9h30 dans le bureau de Devolden. »
Tout en parlant, il lisait en diagonale une écritoire à pinces de feuilles de papier carbone.
« Holden, poursuivit-il en reprenant son chemin, se trouve à l'hôpital Mount Zion. Il a reçu une décharge de laser dans la colonne vertébrale. Il va y rester au moins pendant un mois. Le temps qu'il mette la main sur une de ses nouvelles prothèses vertébrales en plastique pour la lui implanter.
Que s'est-il passé ?
S'enquit Eric soudain glacé. Le chasseur de primes en chef du service allait encore parfaitement bien la veille, une journée qu'il avait conclue comme à son habitude en filant dans son aéromobile vers son appartement situé dans le prestigieux quartier de Nob Hill. Après avoir marmonné par-dessus son épaule quelque chose à propos de la réunion de 9h30 dans le bureau de Holden, Bryant s'en fut, le laissant seul. Alors qu'il entrait dans son propre bureau, Rick entendit dans son dos la voix de sa secrétaire, Anne Marston.
« Monsieur Descartes, vous savez ce qui est arrivé à Monsieur Holden, il s'est fait tirer dessus. »
Elle le suivit dans la petite pièce confinée et mit en marche l'unité de filtration de l'air.
« Ouais, » fit-il distraitement.
« Sans doute, par un de ces nouveaux Andros super intelligents produits par la Fondation Rosen. Vous avez jeté un œil à leur prospectus et aux fiches de spécification. L'unité cervicale Nexus 6 qu'ils utilisent à présent est capable de faire un choix parmi un champ de 2 billions de constituants ou 10 millions de trajectoires neurales distinctes. »
Elle baissa la voix. « Vous avez manqué l'appel vidéo de ce matin. » Mademoiselle Wilde m'a dit qu'il était passé par le standard à 9h précises.
Un appel de l'extérieur ?
S'enquit Rick.
Non, c'est Monsieur Bryant qui a appelé l'OMP en Russie pour leur demander s'ils voulaient déposer une plainte officielle à l'encontre du représentant oriental de la Fondation Rosen.
Arrive toujours faire retirer les unités cérébrales Nexus 6 du marché ?
Ça ne le surprenait guère. Depuis la publication de ses spécifications et courbes de performance en août 1991, la plupart des services de police chargés des androïdes en fuite avaient émis des protestations.
La police scientifique est aussi impuissante que nous en la matière.
Légalement, les fabricants du Nexus 6 dépendaient de la loi coloniale. Leur usine mère se trouvant sur Mars.
Nous ferions aussi bien de nous résigner à l'existence de cette nouvelle unité. Ça s'est toujours passé ainsi à chaque apparition d'une nouvelle unité cérébrale. Je me rappelle les hurlements qu'on a poussés quand les gens de Söderman ont dévoilé leur vieux T-14 en 1989. La moindre agence de l'hémisphère ouest s'est mise à vociférer qu'aucun test ne détecterait leur présence en cas d'entrée clandestine sur Terre. Et pour tout dire, ils ont eu raison pour un temps.
S'il se rappelait bien, plus de 50 androïdes T-14 étaient parvenus d'une manière ou d'une autre à s'introduire sur Terre, et certains d'entre eux avaient tenu une année entière avant qu'on les repère. Mais alors, l'Institut Pavlov, en Union soviétique, avait conclu le test d'empathie Voight, et aucun androïde T-14, pour ce qu'on en savait tout du moins, n'avait jamais réussi à le passer avec succès.
« Vous voulez savoir ce que la police russe a dit ?»
lui demanda Mademoiselle Marston.
« Je suis au parfum. »
Son visage couvert de taches de rousseur rayonnait littéralement.
« Je le découvrirai de la bouche d'Harry Bryant. »
Rick se sentait irascible. Les commérages de bureau l'agaçaient. Il se révélait toujours plus beau que la réalité. Une fois installé à son bureau, il entreprit de fouiller ostensiblement dans son tiroir jusqu'à ce que Mademoiselle Marston saisisse le message. Elle quitta aussitôt la pièce. Après avoir sorti du tiroir une antique enveloppe Kraft toute froissée, il se laissa aller en arrière dans son fauteuil pour en fouiller le contenu jusqu'à ce qu'il tombe enfin sur ce qu'il cherchait. L'intégralité des données existantes sur le Nexus 6. Quelques lignes suffirent à corroborer les dires de Mademoiselle Marston. Le Nexus 6 avait bel et bien 2 billions de constituants, ainsi qu'un choix potentiel entre 10 millions de combinaisons d'activité cérébrale. En une fraction de seconde, un androïde ainsi équipé pouvait adopter n'importe laquelle des 14 réactions de base à sa disposition. Aucun test d'intelligence ne parviendrait à prendre un tel andro au piège. Mais ça faisait des années que les tests d'intelligence n'avaient pas réussi à coincer le moindre andro, pas depuis les modèles rudimentaires du début des années 1970. En termes d'intelligence, songea-t-il, les Nexus 6 surpassaient plusieurs catégories de spéciaux humains. Autrement dit, d'un point de vue pragmatique, plein de bon sens, les androïdes, équipés de cette nouvelle unité cérébrale, avaient évolué jusqu'à constituer un segment majeur, mais inférieur, de l'humanité. Pour le meilleur et pour le pire. À certains égards, le serviteur avait désormais surpassé son maître. Mais de nouveaux tests de niveau, à l'instar de l'échelle d'empathie Voight-Kampff, avaient fait leur apparition pour imposer de nouveaux critères à même de faire la distinction. L'androïde le mieux doté en termes de pure capacité intellectuelle restait incapable d'extraire la moindre signification de la fusion qu'expérimentaient couramment les adeptes du mercérisme, ce à quoi lui-même, comme pratiquement tous ses congénères, y compris les têtes de piaf attardées, parvenait sans difficulté. Comme la plupart des gens, il lui était arrivé de se demander pourquoi un androïde se retrouvait sans défense face à un test de mesure de l'empathie. Celle-ci, à l'évidence, n'existait qu'à l'intérieur de la communauté humaine, alors que l'intelligence pouvait se retrouver, à des degrés divers, dans le moindre embranchement de l'évolution, jusque chez les arachnides. D'abord, la faculté empathique requérait probablement un instinct grégaire intact. Un organisme solitaire, comme celui de l'araignée, n'en aurait eu aucun besoin. En fait, l'empathie aurait même eu tendance à diminuer les chances de survie d'une araignée. Ça l'aurait rendu conscient du désir de vivre de sa proie. Tous les prédateurs, y compris les mammifères les plus évolués, comme les félins, mourraient de faim ainsi pourvus d'une telle faculté. L'empathie, avait-il un jour décidé, devait être réservée aux herbivores, ainsi qu'aux omnivores capables de se départir d'un régime carné, parce que, en fin de compte, le don d'empathie brouillait les frontières entre chasseurs et chassés, entre vainqueurs et vaincus, comme dans la fusion avec Mercer. Tout le monde s'élevait en même temps, ou, quand le cycle touchait à sa fin, chutait ensemble dans le puits sans fond du monde du tombeau. Ça ressemblait à une espèce d'assurance biologique, mais à double tranchant. Il suffisait qu'une seule créature éprouve de la joie pour que toutes les autres en reçoivent un fragment. Mais la souffrance d'un seul être suffisait aussi à en faire planer l'ombre sur tous les autres. Un animal grégaire, tel que l'homme, en tirait un surplus de chances de survie. Une chouette ou un cobra n'y aurait pas survécu. Le robot humanoïde était manifestement un prédateur solitaire. Rick aimait à se les représenter ainsi. Ça rendait son travail acceptable. Retirer, c'est-à-dire tuer, un andro, n'allait pas à l'encontre des règles de vie établies par Mercer. « Tu ne tueras que les tueurs », leur avait-il dit l'année où les premières boîtes à empathie étaient apparues sur Terre. Et à mesure que le mercérisme évoluait en une théologie complète, le concept des tueurs avait connu un développement insidieux. Dans le mercérisme, un mal absolu s'accrochait à la tunique élimée du vieillard pour l'empêcher de poursuivre sa pénible ascension. Mais sa nature demeurait résolument obscure. Un mercériste sentait le mal sans le comprendre. En d'autres termes, un mercériste était libre de percevoir la présence nébuleuse des tueurs là où il lui plaisait. Pour Rick Descartes, un robot humanoïde en fuite, un robot qui avait tué son maître, qu'on avait équipé d'une intelligence supérieure à celle de bien des êtres humains, qui n'avait aucun égard pour les animaux et aucun moyen de ressentir une quelconque empathie pour une autre forme de vie, dans ses joies comme dans ses peines, à ses yeux, cela personnifiait parfaitement les tueurs. Penser aux animaux lui remit en tête l'autruche qu'il avait vue dans la boutique. Écartant temporairement la documentation sur le Nexus 6, il prit une pincée du mélange à priser numéro 3 et 4 de Madame Sidon et s'autorisa un instant de réflexion. Puis il consulta sa montre, alluma son vidéophone de bureau et appela Mademoiselle Marston.
« Passez-moi la boutique au chien joyeux de Sutter Street. »
« Oui, monsieur. »
Elle ouvrit son annuaire.
« Ils ne peuvent quand même pas demander autant pour une autruche. Ils s'attendent forcément à ce qu'on marchande, comme au bon vieux temps. »
« Au chien joyeux !»
déclara une voix masculine tandis qu'un minuscule visage avenant apparaissait sur l'écran vidéo. On pouvait entendre des animaux brailler.
« L'autruche que vous avez en vitrine !» commença Rick tout en jouant avec le cendrier de céramique posé sur son bureau devant lui.
« À combien s'élèverait la compte pour l'acheter ?»«
Voyons un peu !»
fit le marchand en s'emparant d'un stylo et d'un bloc de papier.
Un tiers comptant, il réfléchit. Puis-je vous demander si vous allez procéder à un échange, monsieur ?
Je n'ai pas encore pris ma décision, avança-t-il prudemment.
Disons que nous pourrions envisager un crédit de 30 mois, à un taux d'intérêt extrêmement intéressant, 6% par mois. Après un premier versement raisonnable, ça vous ferait un montant mensuel de...
Vous allez devoir faire un effort sur le prix, l'interrompit Rick.
« Faites-moi une remise de $2000, et je ne demanderai aucune reprise. Je reviendrai avec des espèces. »
Dave Holden est hors jeu pour le moment. Ça peut me rapporter gros, selon le nombre de missions qui se présenteront dans le mois à venir.
« Monsieur !» s'étouffa le vendeur. « Notre prix de départ est déjà $1000 en dessous du prix catalogue. Vérifiez votre Sydney. Je vais rester en ligne. » « Je veux que vous vous rendiez compte par vous-même de la justesse de notre prix. »«
Et merde, ils tiennent bon. »
N'ayant de toute façon plus grand-chose à perdre, il extirpa son Sydney fatigué de la poche de son manteau, le feuilleta jusqu'à autruche, mâle, femelle, vieille, jeune, bonne, mauvaise santé, première main, deuxième main, et examina les prix.
« État neuf, mâle, jeune, en parfaite santé, »
l'informait le vendeur,
« $30,000. »
Lui aussi avait sorti son Sydney.
« Nous sommes exactement $1000 en dessous du prix catalogue. Bon, pour revenir à votre acompte,
je vais y réfléchir, » fit Rick.
« Je vous rappelle. »
Il s'apprêta à raccrocher.
« Votre nom, monsieur ?»
s'enquit son interlocuteur d'une voix alerte.
« Frank Merriwell. » Et votre adresse, monsieur Merriwell, si d'aventure je suis absent quand vous rappellerez ?
Il en inventa une, puis reposa le combiné sur son socle.
Même à ce prix-là, il y a encore des gens pour les acheter. Des gens assez riches pour ça.
Il reprit le combiné. Mademoiselle Marston, fit-il d'une voix rogue, donnez-moi une ligne extérieure et n'écoutez pas ma conversation, c'est confidentiel. Il la fusilla du regard.
Oui, monsieur.
« Allez-y, vous pouvez composer votre numéro. » Elle se retira alors du circuit, le laissant face au monde extérieur. Il composa, de mémoire, le numéro du magasin qui lui avait vendu son ersatz de mouton. Un homme vêtu comme un vétérinaire apparut alors sur le petit écran.
« Docteur Macrae !»
Descartes à l'appareil.
« Combien vaut une autruche électrique ?»«
Oh, avec vous, je pense qu'on pourrait s'arranger pour moins de $800. Vous voulez une livraison rapide ? Nous allons devoir la fabriquer spécialement pour vous. Il n'y a pas beaucoup de demandes pour...
Je vous rappelle. »
L'interrompit Rick. Un coup d'œil à sa montre lui avait appris qu'il était 9h30.
« Au revoir. »
Il se hâta de raccrocher, se leva et peu après se retrouva devant la porte du bureau du commissaire Bryant. Il passa devant sa réceptionniste, fort séduisante avec sa chevelure argentée qui lui tombait jusqu'à la taille, puis devant la secrétaire du commissaire, un monstre antique, tout droit sorti d'un marécage du Jurassique, glacial et rusé, telle quelque apparition fixée dans le monde du tombeau. Aucune d'entre elles ne lui adressa la parole. Ouvrant la porte intérieure, il adressa un signe de tête à son supérieur en pleine conversation vidéophonique. Il s'assit, sortit les spécifications du Nexus 6 qu'il avait emporté et se remit à les étudier en attendant que Bryant mette fin à son appel. Descartes se sentait déprimé. Logiquement, pourtant, la soudaine disparition de Dave, de son décor professionnel, aurait au moins dû lui inspirer quelque prudente satisfaction.